Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Monsieur Alain Berthoz, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un nouveau livre qui est coécrit avec Fabienne Verdier et avec la contribution de Daniel Benquin, qui est mathématicien, et Valérie Ayart, qui est historienne de l'art. Alors, oui. Ce livre s'intitule « Une séance de peinture entre cerveau, art et science ». Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous éclairer un peu ce titre ?
Ce livre fait d'une certaine façon la suite de contacts que j'ai eus depuis de nombreuses années avec les artistes, que ce soit les peintres, les danseurs, et d'un dialogue qui s'est établi peu à peu entre les approches des neurosciences, du mouvement au fond, et les artistes. Et j'ai eu la chance que Fabienne Verdier, il y a déjà 3-4 ans, viennent me voir, à l'occasion d'ailleurs de la lecture de certains de mes livres, et qu'elle m'invite à venir discuter avec elle. Et nous avions ensemble fait déjà une réflexion, puisque j'ai participé au catalogue de la grande rétrospective qui a été faite sur son œuvre à Aix-en-Provence au musée Granet, il y a quelque temps. Et puis, à un moment donné, dans nos dialogues, Fabienne Verdier, qui est une immense créatrice et qui, comme vous savez, a été formée en Chine avec de grands maîtres de la calligraphie et qui est revenue avec cette idée de faire une peinture en marchant, mais avec des pinceaux verticaux. Fabienne m'a dit « Écoutez Alain, c'est bien tout ça, mais il faut qu'on arrête de parler de la peinture que je fais et qu'elle fait. Et il faut que vous veniez partager l'acte de peindre. » Alors, l'acte de peindre, ça m'a plu, puisque, comme vous savez, au fond, l'acte est au fondement de mon travail et de mes réflexions. Et donc, effectivement, nous avons passé une journée à discuter tout en peignant, et on a eu la chance d'avoir en même temps mon ami Daniel Benquin, qui est ce grand mathématicien géomètre avec qui je travaille, et aussi la présence de Valérie Ayart, qui est une grande spécialiste médiéviste de l'art du Moyen-Âge et notamment de la de Dame Justice, dont elle a fait l'iconographie. Elle sort un bouquin d'ailleurs là-dessus, extraordinaire, qui est aussi quelqu'un pour lequel la gestuelle est symbolique. Donc cette équipe, finalement, il y avait aussi d'ailleurs mon épouse Maya qui était là, et le mari de Fabienne Verdier, Guylain Bézot, qui est à ses côtés pour toute son œuvre. Et donc c'est un travail collectif que nous avons fait de réflexion aux frontières neurosciences art, autour de du fait de faire l'œuvre, de la vivre. Voilà. Et c'est ce qui a donné ce dialogue qu'ensuite nous avons essayé de traduire sous forme d'un livre de dialogue.
Alors, Alain Berthoz, vous êtes neurophysiologiste, professeur honoraire au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages, dont Le sens du mouvement. L'explication du fait que nous puissions bouger dans l'espace, le sens du mouvement, la décision, la simplexité, l'inhibition créatrice, et anticipation et prédiction, ça c'était en 2015. Est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, quel est le lien entre tous ces livres et quelle est la molécule première de votre travail en neurosciences?
Ah, s'il n'y avait qu'un seul lien et qu'une seule molécule, ça serait facile de vous répondre. Mais vous savez, c'est comme pour le vivant. Il y a à la fois des idées simples et puis leur traduction de multiples formes. Non, pour moi, effectivement, je me situe dans la tradition des grands, des physiologies du mouvement, comme Marais depuis toujours. Vous savez, la vie est essentiellement mouvement. Il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas mouvement. La première phrase de mon livre, Le sens du mouvement, est une citation de Goethe. Lorsque Faust dit « au début était le verbe », puis il se reprend et dit « non, au début était la force », et puis il termine en disant « non, au fond, au début était l'acte ». Et ce qui m'intéresse, c'est pas seulement le mouvement et l'action, c'est l'acte. L'acte, c'est à la fois le mouvement, mais aussi l'intention, le sens, la signification, le but, l'utilisation de la mémoire pour déterminer ce que nous faisons, c'est-à-dire ce qui est au fond, au début de ma réflexion, comme cela avait été d'ailleurs le cas pour des philosophes modernes comme Bergson ou Merleau-Ponty ou même Husserl, c'est cette notion d'acte, c'est-à-dire au fond notre situation vivante dans le monde. Et je ne crois pas qu'il y a une molécule dans mon action, mais il y a peut-être quelque chose qui est plus proche de ce qu'a été mon histoire, puisque je suis un enfant caché et que, au fond, j'ai vécu au moment où, je le dis parce que maintenant j'ose le dire, mais je ne l'ai jamais dit précédemment à ce point-là, mais c'est et puis en plus je suis d'une famille de René Cassin qui était le prix Nobel de la paix, qui a été un des rédacteurs des droits de l'homme, et donc au fond de tout cela il y a une interrogation sur notre existence à travers ce qu'on appelle l'acte, c'est-à-dire avec toutes ces dimensions, aussi bien ces dimensions cinématiques strictement dans le geste, dans le mouvement, jusqu'au sens que nous donnons. Et c'est pour ça que depuis quelques années, d'ailleurs, j'ai commencé à travailler avec beaucoup de collègues passionnants sur l'empathie et sur les bases de la relation avec autrui. Voilà. Donc vous voyez, je ne vous réponds pas par une idée simple, il n'y en a pas. Il y a un contexte qui est un petit peu, je crois, comme tous les gens qui travaillent, qui est lié à notre contexte culturel, familial, au monde dans lequel nous vivons. Et je crois qu'aujourd'hui, les réflexions que j'ai pu faire, d'abord dans le sens du mouvement, vous savez, il y avait une espièglerie, il y a trois sens, il y a la direction, l'intention, etc. Et au fond, ce qui est le fil de tout cela, c'est ce questionnement, comme beaucoup de nos collègues scientifiques, le questionnement sur l'existence, la relation. Et aujourd'hui, dans ce monde qui change à un point tellement fantastique et qui est tellement brutal en plus, et où la barbarie revient, je crois que ce cheminement que j'ai eu la chance de faire, d'ailleurs grâce à Odile Jacob, parce qu'en plus de mon activité scientifique rigoureuse, Odile Jacob nous a donné au fond l'occasion de dépasser la stricte démarche scientifique pour aller placer nos réflexions scientifiques dans des contextes plus généraux. Et je dois dire que j'en suis beaucoup reconnaissant à Odile Jacob et à Bernard Gottlieb qui l'accompagne de tout ce qu'elle fait pour nous et pour nous encourager, vous voyez, à nous exprimer au front, au-delà de notre compétence scientifique. Mon ami Isaac Fried, le grand chirurgien et neurophysiologiste avec qui nous avons fait récemment un travail pendant 3 ans à l'Institut d'études avancées de Paris, et il y a un livre sur les gens qui massacrent 50 personnes et sont en même temps apparemment des gens très, très gentils, des hommes normaux. Il avait une expression tout à fait remarquable. Il disait « il faut que nous sortions de notre zone de confort ». Voilà. Donc, ces livres, ce qu'il y a de commun, c'est de cette liberté que nous donne le livre à nous, les scientifiques, qui devons justifier chaque mot dans nos articles. Le livre nous donne cette liberté de sortir de notre zone de confort et d'aller dialoguer d'ailleurs avec un public différent, parce que chacun de ces livres m'a donné l'occasion merveilleuse de dialoguer avec des gens très très différents, autres que ceux qui sont dans notre communauté.
Alors, scientifique. Alors,
comme vous aujourd'hui, par exemple.
Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai été vraiment très impressionnée par la clarté de vos propos dans ce livre. Par exemple, j'ai découvert, ou bien j'ai confirmé une intuition que j'avais, que la géométrie pourrait être la résultante de notre mouvement, nous, humains, dans l'espace. Lorsque nous marchons, nous avançons d'une ligne, et puis nous changeons d'avis, nous allons en arrière, donc un autre angle en arrière, et puis parfois on veut retourner sur nos pas, donc une ellipse, et voilà, une courbe. La géométrie serait-elle issue du mouvement?
Oui, alors c'est effectivement ça. C'est Poincaré qui,
c'est Poincaré.
De la façon la plus claire, il n'est pas le premier à l'avoir dit, bien sûr, mais c'est dans les temps modernes, on peut dire, c'est Poincaré, le mathématicien, qui a le premier dit cette phrase que j'aime beaucoup citer, même si je vais la déformer un petit peu maintenant parce que je la cite de mémoire, qui dit le mouvement est à la base de la géométrie. Einstein, dans un petit texte que j'aime aussi à citer, a dit que l'idée que la géométrie était abstraite était une erreur fatale, il écrit même. Alors que ses fondements sont, a dit Einstein, dans l'expérience sensible. Vous voyez à quel point ça fait plaisir aux physiologistes. Voilà. Donc effectivement, ce genre de réflexion qui sont pour un scientifique très importantes, parce qu'elles font le lien entre des fonctions apparemment très abstraites du cerveau et le corps en acte. C'est parce que nous bougeons avec d'autres corps.
Oui, là. Et c'est pour ça que c'est par rapport au mot acte. L'acte, c'est l'action. C'est l'action volontaire ou parfois non volontaire, hein, involontaire, de notre corps sur les objets, dans l'espace. L'acte, c'est...
Absolument.
Voilà. Alors, ce livre, Une séance de peinture entre cerveau, art et science, coécrit avec Fabienne Verdier, qui est, elle, artiste peintre et qui est richement illustré, documente l'expérience concrète par vous, Alain Berthaus, de l'acte de peindre avec des pinceaux suspendus dans l'atelier de l'artiste. Alors là, c'est une expérience inouïe de peindre avec un pinceau suspendu plus grand qu'un être humain. Quelle est la mesure, quelle est la taille de ce pinceau? Et est-ce qu'il est troué à l'intérieur dans le manche de ce pinceau? Est-ce qu'il y a un canal par lequel la peinture s'écoulerait sur une toile qui est une toile ou plutôt un panneau en bois, si j'ai bien compris?
Oui, alors, Fabienne Verdier, d'abord il faut que je vous signale qu'il y a une immense œuvre au musée de Colmar, avec 78 tableaux d'elle en ce moment, qui s'appelle les Rainbows Paintings, qu'elle a fait autour du retable de Grunewald. Et Fabienne Verdier a donc été formée en Chine, et je vous recommande bien sûr la lecture de ce livre qu'elle avait fait en 2022, qui s'appelait « Le champ des étoiles », qui retrace ce trajectoire. Et quand elle est revenue en France, elle a souhaité faire une peinture qui soient faites avec des pinceaux verticaux. Comme la calligraphie, moi je ne le savais pas, mais la calligraphie se fait en tenant le pinceau vertical. Et effectivement, dans son atelier, qui est un très grand atelier, il y a des panneaux de bois par terre et ses pinceaux. Elle m'a fait expérimenter deux sortes de pinceaux, parce qu'elle en a une variété qui ne cesse d'ailleurs de se renouveler. Un grand pinceau il y a une grande quantité de peinture avec des poils qui est très lourd et qui est d'ailleurs guidé par ce fameux guidon dont nous parlons dans le livre, qui permet de le manipuler en trois dimensions. C'est ce que Fabienne dit, que tout d'un coup elle a découvert que le fait d'avoir ce bidon donné à son pinceau suspendu toute une capacité nouvelle de mouvement. Et effectivement, le tableau se fait par le mouvement de ce pinceau en marchant sur ces très grands panneaux qui peuvent, dans son cas, atteindre des dimensions de plusieurs mètres, de 5-6 mètres de plus. Et puis, elle m'a fait aussi essayer un deuxième pinceau qui est un peu particulier. Il ressemble un petit peu à ces pochoirs, vous savez, qu'utilisent les pâtissiers pour mettre de la crème.
Oui, poches dans lesquelles on met la crème.
Des poches de pâtissier pour mettre de la crème fraîche sur les gâteaux. Mm-hmm. Et à ce moment-là, c'est un peu comme un pied de vache aussi. C'est-à-dire qu'on a la main, au lieu simplement de faire bouger le pinceau qui a ses grands poils, qui se frotte, en ce moment-là, on a la main sous le pinceau et on laisse partir plus ou moins la peinture, et c'est donc un rapport avec l'écoulement très différent. Parce qu'au fond, ce qu'il y a de tout à fait, et qu'on éprouve, effectivement, il faut le faire pour l'éprouver, ce qu'il y a dans la peinture de Fabienne, c'est un essai, une tentative d'utiliser, d'entrer en dialogue avec ce qu'elle appelle les forces de la nature, et qui se traduisent par l'effet de la gravité, par exemple, sur des écoulements. C'est-à-dire, ces pinceaux sont un petit peu un espèce de petit résumé physique des forces qui s'exercent sur une cascade, dans des écoulements, etc. Voilà. Donc, ces deux types de pinceaux sont en mouvement, ils sont suspendus, donc ils sont soumis à la gravité, ils ont des inerties, des masses, on marche, et donc on se trouve effectivement dans un univers de contact avec ce que j'ai appelé moi dans le livre des créatures, parce qu'on ça finit par être, on les assimile à son corps, et on devient des danseurs qui dansent en relation avec ces forces, comme dit Fabienne Verdier, telluriques. Et à ce moment-là, le signe que laisse la peinture sur le tableau, c'est ça qui moi m'a intéressé, est un signe, et c'est ce qu'elle souhaite, c'est un signe qui résume à la fois cette confrontation par l'intermédiaire de ces pinceaux, et aussi d'ailleurs de la compliance des panneaux, et qui résume le dialogue qu'on a avec la nature, et en même temps qui exprime l'intention. Parce que Fabienne Verdier donne à ses œuvres, toujours, un thème. Elle a, par exemple, à certains moments, fait des tableaux en relation avec la musique. Elle en a fait d'autres qui étaient inspirés par les œuvres de la peinture hollandaise. C'est-à-dire, il y a toujours une préparation mentale de la création d'une forme qui est aussi ce qui m'a beaucoup intéressé, puisqu'on on rejoint là l'idée des géométries. C'est-à-dire que il y a dans le cerveau de Fabienne Verdier une anticipation de mouvements dans le monde dont elle prend les modèles dans des grands thèmes culturels, artistiques ou naturels. Par exemple, les Rainbows paintings qui sont à Colmar actuellement, au musée de Colmar, ont été en partie inspirés par un arc-en-ciel qu'elle a vu un jour tout d'un coup dans son jardin, aussi bien que par un cercle mystique, on peut dire, qui entoure Jésus dans un des panneaux du retable de Grunewald. Voilà. Donc c'est ça qui m'a intéressé beaucoup et qui a été l'objet de notre dialogue, c'est comment tout cet univers mental, culturel, que l'artiste prépare, et c'est le cas de tous les artistes, dans ses rapports avec l'histoire, l'art, comment tout cela se traduit finalement par quelque chose qui n'a l'air d'être que des coulures de peinture sur un panneau, mais qui contiennent dans leur forme, dans leur éclaboussement, dans leur pétillement, qui contiennent des traces de ce qui a été imaginé, pensé par l'artiste. Voilà. Et donc pour moi, neurophysiologie, si vous voulez, c'est ça qui est passionnant, parce que au fond, nous découpons le fonctionnement cérébral en petits morceaux. Nous avons des études sur ce qui se passe dans la moelle épinière, dans ce qui se passe dans les muscles, ce qui se passe dans le cortex cérébral, dans les ganglions de la base, etc. Mais là, il y a l'occasion de vivre un petit peu comment tout ça se combine dans l'acte créateur de la peinture. Voilà ce qui était passionnant, voilà pourquoi nous avons beaucoup discuté.
Alors, pour incarner un petit peu ce que vous dites, il y a devant moi l'image du plan horizontal du support, c'est-à-dire de le support qui va recevoir la peinture et qui, lui, est un panneau en bois. Et ce support est au sol. Donc, c'est une peinture qui va être sur un panneau posé sur le sol. Donc, plan horizontal du panneau. Ensuite, il y a une perpendiculaire, c'est la gravité, donc le poids de la peinture qui s'écoule du manche ou des poils du pinceau. Donc on avait un plan horizontal, je suis en train de faire de la géométrie. Plan horizontal, le panneau. Une verticale, c'est la peinture qui s'écoule par ce grand pinceau vertical. Et puis à côté, la géométrie, presque la chorégraphie des gestes du peintre qui manipule ce pinceau en marchant, ce peintre qui est un peintre-pinceau.
Tout à fait, c'est comme ça que j'ai appelé Fabienne Verdier, un corps pensant pinceau, en quelque sorte, oui. Alors, il y a dans tout ça plusieurs aspects. D'abord, si on parle du panneau, puisque vous êtes parti de là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. On peut même, si vous voulez bien, on peut même essayer de se mettre à la place de la personne qui regardera le tableau. Ce qui est impressionnant, moi ce qui m'a impressionné, surtout à Aix-en-Provence, au musée Granet, quand j'ai vu le public regarder, voir, sentir les panneaux de Fabienne Verdier, c'est qu'il se passe quelque chose dans le cerveau des spectateurs qui fait qu'ils reproduisent d'une certaine façon l'ensemble de tout ce dont nous venons de parler. Alors, la question c'est comment c'est possible? Alors, premier point, nous avons des données expérimentales, parce que là je fais un peu le physiologiste, pardonnez-moi, mais enfin c'est ça qui est le but. Hein. Nous savons, d'après notamment des travaux de Semir Zeki à Londres, qui a fait des études en IRM fonctionnelle, en imagerie cérébrale, que si on dessinait sur un papier une forme, et ça peut être un dessin sur un papier ou ça peut être le dessin sur le panneau de la peinture de Fabienne Verdier, qui d'horizontal va devenir vertical. À partir du moment où une forme est dessinée, ou bien est sculptée, parce que c'est la même chose pour les sculpteurs, ou bien qu'elle est reproduite sur un motif d'architecture, à partir du moment où une forme a été faite par un mouvement naturel, dans notre cerveau, les neurones qui perçoivent ce, cette forme reproduise le mouvement. C'est-à-dire que si vous faites dessiner un S rapidement avec la main et que vous le regardez, dans votre cerveau, une structure qui s'appelle dans le lobe médio-temporal, mais c'est pour montrer à quel point c'est précis, se met en activité comme si vous étiez en train de voir, de regarder, de percevoir une forme en mouvement. C'est la base. Le cerveau est un simulateur qui est capable de simuler, de reproduire l'acte qui a été à l'origine d'une forme si cette forme a été faite avec un mouvement naturel. Et la raison, et on revient à la géométrie, et la raison pour laquelle nous avons cette capacité extraordinaire, c'est pas simplement les neurones miroirs qui sont très à la mode, ça fait partie de cette histoire, mais c'est que le mouvement naturel se fait avec des lois qui sont des lois géométriques très générales, qui sont pas si simples, elles sont simplexes. Vous savez que j'aime bien cette expression.
C'est quoi, simplexe?
Et donc, nous avons cette capacité de simuler le mouvement, comme nous avons d'ailleurs la capacité de simuler le mouvement d'autrui dans notre tête. Voilà. Et ça, c'est une des bases. C'est-à-dire que, parce que ces mouvements sur le plan sont faits par le mouvement réel de l'artiste, eh bien, nous pouvons reproduire dans notre cerveau, nous pouvons la réimaginer. Qu'est-ce que c'est la simplexité?
Oui.
Au cours de l'évolution, le vivant, les organismes vivants se sont trouvés devant un problème qui est le même que le nôtre. C'est d'être devant un monde complexe, incertain, indéterminé, avec comme outil pour le comprendre, d'ailleurs, un cerveau de plus en plus compliqué. Un corps compliqué, avec des milliers, des dizaines de milliers de muscles, etc. Et donc un des problèmes majeurs de tous les organismes vivants, à tous les niveaux, depuis les gènes jusqu'aux fonctions cognitives les plus complexes, un des grands problèmes du vivant a été de trouver des solutions pour être en interaction avec le vivant, survivre, capturer des proies, éviter des prédateurs, manipuler le réel. Mmh. Et les organismes vivants ont trouvé des solutions. Ces solutions ne sont pas simples. Et c'est ce que nous enseigne la science, la physiologie, la génétique. Hein, là, je parle de ce que nous enseignent nos collègues scientifiques. La physiologie moderne et les sciences du vivant moderne nous enseignent que le vivant a trouvé des solutions. Ces solutions ne sont pas simples. Quelquefois, elles empruntent des détours, des complexités, des variations, des solutions. Et j'ai appelé ces solutions simplexes, parce qu'elles permettent d'aller vite, de trouver des solutions souvent très variées et d'ailleurs élégantes, souvent. Voilà. La simplexité, c'est l'ensemble des solutions que le vivant a trouvées pour résoudre très rapidement, avec beaucoup d'efficacité, des problèmes. Alors, par exemple, les mathématiciens, les roboticiens, ils ont des problèmes compliqués pour faire manipuler un robot. Finalement, ça se traduit par le fait qu'il faut que la main du robot, par exemple, fasse des coordonnées XY. Mais ils vont utiliser pour faire ça des variables qui sont elles-mêmes assez apparemment complexes, qui utilisent des nombres imaginaires, des choses comme ça. Donc, dans beaucoup de domaines, on a utilisé ce détour par des méthodes apparemment complexes. Voilà. C'est un des principes du vivant. Et alors, au sein de ces, et donc ça a donné des lois générales comme les lois du mouvement. Par exemple, le fait que le mouvement est contrôlé par des mécanismes qui sont pas si simples que ça. Voilà. Et alors, au sein de ces lois générales que nous découvrons, il y a un principe très important c'est parce que ça, tout le monde, beaucoup de gens ont été intéressés par mon livre sur la simplexité, des banquiers, des ingénieurs, des artistes même, etc. Mais peut-être on n'a pas encore encore assez, si je peux me permettre, porté attention au deuxième concept qui est le compagnon de la simplexité. C'est la vicariance, qui est mon deuxième bouquin sur ce sujet. C'est quoi la vicariance? C'est un concept qui a été utilisé par les paléontologues, à savoir que les grenouilles, par exemple, ont toutes le même génotype, les mêmes gènes. Mais suivant que une grenouille est en France ou au Brésil, le phénotype est différent, elle ne se ressemble pas. La vicariance, c'est la diversité. C'est utilisé aussi, ça a été utilisé dans l'enseignement pendant longtemps. On l'a un peu oublié hein, dans l'enseignement moderne. On a oublié le fait que tous les enfants sont différents, que chacun d'entre nous peut résoudre un problème de mathématiques avec des méthodes très différentes. Donc, simplexité, ce sont des lois générales qui souvent, des méthodes, qui souvent des principes, qui permettent d'aller vite et qui sont souvent un peu compliqués apparemment. Et la vicariance, c'est un principe de diversité. Du fait que, en plus de ces lois générales, il y a une formidable capacité de trouver une solution. Par exemple, vous pouvez vous rappeler votre chemin pour aller de chez vous à votre bureau en ayant une carte, ou bien au contraire, en nous rappelant successivement chacun des trajets, etc. etc.
Alors, Alain Berthoz,
est-ce que je suis à peu près clair?
Ah oui, tout à fait, d'autant plus que vraiment, celui qui vous écoute a une petite réflexion interne. Et si j'osais, je vous dirais ce que j'ai pensé par rapport à votre dernière explication de la vicariance et de la simplexité. Est-ce que nous pouvons dire, et si je me trompe, soyez indulgents, je vous prie. Alors, est-ce qu'on peut dire que la vicariance serait en rapport avec l'adaptation?
Ben oui, parce que, oui, alors c'est là où intervient l'inhibition, n'est-ce pas?
Voilà.
Oui, bien sûr. Tout ça est lié, parce que vous voyez, on va arriver à la réponse à votre question initiale, qui était, est-ce qu'il y a une molécule? Non, il n'y a pas une molécule d'origine dans tout ça. Il y a simplement un cheminement modeste de la science pour essayer peu à peu de comprendre les composantes de ce qui fait cette merveille qu'est le vivant. Voilà, et qui émerveille aussi Fabienne Vivardier. Oui, bien sûr. L'adaptation, c'est la propriété fondamentale du vivant. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, ça va être le problème majeur. C'est-à-dire, ou bien Sapiens va être capable de s'adapter, ou il va disparaître, puisque nous sommes dans la sixième grande période d'extinction, visiblement accélérée par l'homme. Et d'ailleurs, je vous signale ce livre qui est paru chez Human Sense, qui a été le résultat de 4 ans de travail avec un groupe interdisciplinaire qui s'appelle Sapiens, Métamorphose ou Disparition, une réflexion sur la question. Donc oui, l'adaptation, c'est la propriété principale du vivant. Or, pour s'adapter, il faut être capable déjà de faire 2 choses. Premièrement, il faut être capable de supprimer les mécanismes automatiques qui sont donnés par la génétique ou qui sont donnés par des apprentissages trop rigides, voire une partie des fondements de l'éducation en France notamment. Ça, c'est un petit aparté espiègle. Donc, il faut d'abord être capable d'échapper à des mécanismes automatiques qui ne sont plus adaptés. Pour ça, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'espèces disparaissent, parce qu'elles ne sont pas capables de trouver d'autres solutions. Deuxièmement, alors pour supprimer ces mécanismes, il faut être capable de les inhiber. Et c'est là que je cite aussi, j'aime à citer le travail de mon collègue et ami Olivier Houdet, qui est un psychologue, qui est aujourd'hui membre d'ailleurs de l'Institut, et qui a beaucoup travaillé sur cette question du rôle de l'inhibition dans l'apprentissage chez l'enfant. Et il a montré par de très très belles expériences que, par exemple, pour résoudre un problème logique, on fait ça souvent avec des heuristiques, des méthodes très simplistes, automatiques, et qu'il faut les inhiber pour faire intervenir son cortex préfrontal, c'est-à-dire cette zone du cerveau où on peut construire des scénarios nouveaux et où on peut inventer des choses nouvelles. Donc l'adaptation, c'est le résultat, effectivement, de ce que permet la vicariance. C'est-à-dire, c'est parce que nous sommes capables d'inhiber les mécanismes qui ne seraient non adaptés que nous pouvons en construire de nouveau. Et le cerveau des animaux et de l'homme, et notamment chez l'homme, a une capacité extraordinaire de construire justement des choses nouvelles. Ben, c'est pour ça que c'est la base de l'innovation, et c'est pour ça que j'ai appelé mon dernier livre « L'inhibition créatrice ». C'est un peu paradoxal.
Alors, et la simplexité, est-ce qu'elle n'aurait pas comme but la praticité ? On simplifie pour être un peu plus concret, que ce soit un peu plus pratique dans notre mouvement, dans notre adaptation au monde.
Ah, là il faudrait avoir plus que 45 minutes parce qu'on revient. On pense tout de suite à Simondon, on pense tout de suite au problème de l'outil, on pense aussi à tout le travail qui avait été commencé de réflexion par mon ami le grand roboticien Jean-Paul Laumont, qui a été et qui a eu une très belle chaire de robotique au Collège de France, membre de l'Académie, qui est décédé récemment, et qui avait commencé à réfléchir beaucoup sur cette question du faire, F-A-I-R-E. D'ailleurs, ça fait penser aussi aux travaux de notre collègue Emmanuel Damblon, qui est une rhétoricienne belge, qui vient d'être élue d'ailleurs à l'Académie royale belge, et qui promeut une rhétorique basée sur le faire, justement, F-A-I-R-E, sur l'action, par rapport à une rhétorique abstraite. C'est-à-dire, la question que vous posez, c'est effectivement la question centrale. C'est pas la question de la praticité. J'utilise pas le mot pratique, mais vous avez raison. C'est la praxis. Enfin, si Emmanuel Damblon était là, elle citerait les termes grecs, ou si d'autres des collègues rhétoriciens étaient là, ils nous diraient les termes grecs qui conviennent. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il faut repartir de l'acte, du faire. Pourquoi est-ce que j'hésite à employer le mot pratique? Là, vous me défiez. Parce que, tiens, ça vaudrait la peine de faire une réflexion sur ce sujet.
Oui, parce que le but, c'est qu'on puisse évoluer de façon performante.
Oui, mais dans la pratique,
que ce soit plus simple.
Il y a plusieurs visages. Il y a le pratique, c'est-à-dire ce qui est utile. Ça, c'est la version un peu banale, je dirais. Et puis, il y a la notion de la pratique, pratiquer un sport. Pratiquer un sport, c'est en saisir toutes les dimensions. Donc, je vous remercie d'avoir introduit dans notre dialogue ce mot auquel je pensais très peu, trop peu.
Alors, vous posez une dernière question. Alain Berthoz, lorsque, par exemple, si on présentait un livre de ses peintures à un néophyte, quelqu'un qui y verrait que uniquement qui n'y verrait que des images, est-ce que tous les tableaux ne se ressembleraient pas à ses yeux et que finalement toute cette aura, c'est votre commentaire à vous, vous le savant, c'est les commentaires de l'historienne de l'art. Est-ce que toute cette parole, toute cette réflexion autour de ces tableaux qui sont des monochromes avec des surfaces comme on peindrait sans ce pinceau vertical. On peut le faire. On pourrait le faire avec en aspergeant la toile ou le panneau avec des seaux d'eau, en mettant des ventilateurs devant, en mettant du mouvement dans la matière encore fluide, en variant les viscosités, en variant les peintures. Est-ce que toute cette merveille que vous racontez dans ce livre, ce n'est pas votre science que vous mettez autour de ces tableaux? Pas pour les valider, mais pour... Pourquoi, au fait?
Alors, vraiment, là, je vous remercie beaucoup de me défier, de me provoquer presque à la fin, parce que c'est très intéressant. Mais c'est exactement le contraire. Et c'est vrai que le livre est ingrat pour cela. Effectivement, ces tableaux sont très grands et il est important de les voir en vrai, parce que et de les parcourir. C'est là où il est très difficile d'évaluer, j'ai pas dit de juger, d'évaluer une peinture comme celle-là sur un papier qui fait 20 cm sur 10. Car on ne peut pas y vivre, je répète, on ne peut pas y vivre le mouvement qui a été fait. Alors que dans un musée ou dans un bâtiment, puisque l'on fait, on s'incarne dans la peinture. Voilà. Donc, premier point, cet art est un art qui doit être vu avec une certaine dimension. Et c'est vrai que le livre qui a été publié là, chez Odile Jacob, est un livre dont la dimension ne se prête pas à cette, pas vraiment à cette interaction. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus grand. La deuxième chose, c'est que là, le choix a été fait de ne faire que des tableaux noirs, mais toute l'œuvre de Fabienne est une œuvre colorée. Hein. Là, l'exercice qui a été fait est un exercice essentiellement avec de la peinture noire, parce qu'il s'agissait simplement d'un exercice de vécu. Donc, je précise cela. Et pour terminer, justement, ce qui m'a intéressé, moi, ce n'est pas de projeter, comme vous le suspectez, la science sur l'œuvre, c'est justement que c'est parce que les œuvres, quand on les voit dans un musée ou dans un lieu, vous saisissent d'une curieuse émotion et vous prennent parce qu'ils ont été pensés avec leur corps, etc., que ça m'a intéressé. Et donc c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que j'ai mieux compris pourquoi, lorsque on voit ces œuvres dans un musée, l'œuvre réelle, avec sa texture qui n'est pas sur le papier, avec ses reflets, avec ses couleurs, avec sa dimension, c'est elle qui vient interroger la science et pas le contraire. Et je terminerai par les mathématiques de mon ami Daniel Benkin, parce que vous avez peut-être lu que dans ce livre, comme d'ailleurs dans certains de mes bouquins récents, on travaille beaucoup sur la géométrie du cerveau. Nous avons avec Thomas Flach, à l'Institut d'études avancées de Paris, où je travaille sur des projets interdisciplinaires, fait un colloque il y a 3 ans sur les géométries dans l'art et dans la science. Et nous avons mis ensemble des artistes et des mathématiciens qui travaille notamment, comme Daniel Benkin, sur ces géométries non euclidiennes, qui sont vraisemblablement les géométries de notre cerveau et qui justement sont des géométries du mouvement, des géométries de l'adaptation, etc. Et la raison pour laquelle on a mis ensemble, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle sur ce sujet, qui a été publié chez Springer sur le colloque. Notre suspicion, c'est effectivement que les artistes, un certain nombre de grands artistes nous ont révélé le fait qu'il y a dans notre cerveau des géométries différentes. C'est-à-dire que ce sont bien les artistes qui viennent nous questionner et qui viennent nous révéler en parallèle avec des scientifiques, je dis bien en parallèle avec nous, avec une démarche très différente, comment fonctionne réellement notre cerveau. Parce qu'au fond, nous sommes tout au début pour comprendre comment cette machine biologique a évolué au cours de l'évolution. Et c'est bien ce que j'appelle la fertilisation croisée qui se produit dans des interactions avec Fabienne comme dans d'autres que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec des artistes sur ces sujets. Voilà.
Monsieur Alain Berthoz, je vous remercie beaucoup pour cette présentation vraie, courageuse, brillante de ce livre que vous venez de faire paraître aux éditions d'Il Jacob et dont le titre est « Une séance de peinture entre cerveau, art et science ». C'est écrit avec Fabienne Verdier qui est peintre et il y a la contribution de Daniel Benquin, mathématicien, et de Valérie Ayart qui est historienne de l'art. C'est absolument fascinant parce que c'est plein d'intelligence et on découvre des choses, des explications prodigieuses à partir de choses qui nous semblent élémentaires, comme par exemple cette citation que j'avais faite par rapport à la géométrie qui serait induite par nos mouvements à nous humains dans l'espace. Merci infiniment et au plaisir de vous lire une autre fois.
Merci à vous de m'avoir donné ce moment de liberté d'expression qui rejoint et qui est improbable pour nous les scientifiques et qui rejoint ce livre que j'avais fait avec Carlo Ossola qui s'appelait Les libertés de l'improbable.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Strasbourg Pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange. Thank you.